BFM Business présente. BFM Entreprise, leadership, la méthode. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Entreprise, consacré comme tous les lundis au leadership. Une demi-heure avec un leader, un patron qui va nous expliquer comment il dirige, son parcours, sa méthode, les clés de sa réussite, les épreuves qui l'ont forgé, quel meneur est-il ? Aujourd'hui, BFM Entreprise, le leadership, c'est avec Guillaume Gibault.
BFM Entreprise, leadership, la méthode, sur BFM Business.
Bonjour Guillaume Gibault.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais je vous en prie, président fondateur du Slip français, marque française iconique, fondée en 2011. 15 ans que vous êtes à la tête de cette entreprise de textile que tout le monde connaît plus ou moins en France. Pour commencer, cette question, est-ce qu'on est leader ?
C'est une bonne question. Je crois pas. Je pense qu'on le devient. Il y a sûrement des choses dans le parcours, dans la construction, qui font qu'on peut le devenir, mais moi, pour ma part, je le suis vraiment devenu avec le temps. Et c'est plutôt une quête de sens et de liberté dans mon parcours professionnel qui m'a amené à devenir chef d'entreprise. Et donc, par un peu la force des choses, essayer de devenir leader, qui est un mot ambitieux, hein, mais par la force des choses, on doit emmener des gens et des choses avec nous. Donc, ouais. Donc moi, c'est plutôt comme ça, plutôt à chercher un métier qui me plaisait, qui me rendait libre et épanoui professionnellement, qui m'a emmené vers la création d'entreprise.
On va rappeler d'où vous venez. Vous avez un parcours scolaire assez remarquable quand même. Vous avez fait Louis le Grand, prépa Henri IV. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Non, c'est correct.
HEC, vous êtes quand même passé quelques temps par le salariat, mais enfin, ça n'a pas duré très longtemps.
Ça a duré combien de temps ? Ça a duré un premier job chez General Electric, quelques mois, puis Bio C'est Bon, où vraiment j'ai compris que je voulais devenir entrepreneur. Avec un mentor qui était génial, et j'ai travaillé 18 mois chez Bio C'est Bon. Donc j'étais salarié un peu moins de 2 ans.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'un à l'autre ? C'est le dégoût du premier ou c'est justement l'envie de la vie que pouvait offrir l'entrepreneuriat, la liberté ?
Ouais, j'ai compris chez Bio C'est Bon, notre métier c'était d'ouvrir des magasins bio, j'étais chef des ventes, donc je recrutais les équipes, j'avais 22-23 ans, je recrutais une équipe de je crois qu'à la fin il y avait 80 personnes. Il fallait entretenir les frigos, les clims, les portes automatiques pour que les clients rentrent dans le magasin. Et moi, j'aimais que mon job soit très concret comme ça. J'ai compris que j'aimais l'entrepreneuriat. J'ai dû ouvrir des magasins en quelques jours. Les travaux n'étaient pas finis. Je connaissais rien à rien. Et on a dit, vas-y, démerde-toi. Et voilà, le patron de Bio C'est Bon de l'époque m'a dit, en fait, t'es pas trop con, t'as la tête bien faite. Le bon sens, le travail, c'est ça qui marche. Et je me suis dit, OK, en fait, c'est ça que je veux faire. Et moi, je me suis dit, j'ai 23-24 ans à ce moment-là. Je me dis, si j'ai envie, je sens que j'ai envie de monter mon truc. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je suis un peu à réfléchir, les choix de vie. Moi, j'ai une histoire un peu particulière. Mon papa a eu un grave accident de voiture quand j'avais 5 ans. Donc, j'ai grandi avec un père handicapé qui, du jour au lendemain, a une vie tracée. Et puis, en fait, la vie n'est plus du tout ce qu'on imagine. Donc, moi, je vis un peu avec un compteur de dire, en fait, vas-y, décide, fais des choix. Et donc, au bout de 18 mois chez Bio C'est Bon, je me dis, en fait, voilà, j'ai compris que je voulais monter ma boîte. Si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Vas-y, mon gars. J'y vais, mais j'ai peur, quoi. C'est vraiment, je l'attends, quoi.
Il y a une part d'inconscience, là. On n'a aucune idée du risque. On n'a aucune idée de ce qu'on va rencontrer.
Et il faut, heureusement. Et d'ailleurs, il faut le cultiver. Je crois que quand on est chef d'entreprise, il faut une part d'inconscience, d'acceptation du risque. Parce que si on veut tout maîtriser, on se lance jamais. Et moi, en plus, dans mon cas, du coup, je suis chez Bio C'est Bon. Je me dis que je veux partir et je pars. Et d'ailleurs, je pars en rupture conventionnelle. On pourra peut-être y revenir. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un cadre qui permet aux entrepreneurs d'être accompagnés. Donc moi, c'était mon cas. Donc j'avais 15 mois d'allocation chômage devant moi pour monter ma boîte. Et je me dis, OK, il faut que j'aille vite. J'ai peut-être pas une idée de génie. La mode, j'ai toujours bien aimé. Dans la mode, les sous-vêtements, c'est quand même pas mal adapté à la vente en ligne. Où je me dis, Internet, à l'époque, va péter les scores. Et puis, le sous-vêtement, c'est petit, c'est léger, ça s'essaye pas. Un mec, s'il est content de son slip bleu marine, il va mettre le même toute la vie. Donc, voilà, je me dis, c'est facile à vendre en ligne. Et donc, je me lance un peu comme ça, un peu par hasard, sans trop réfléchir le truc. Et effectivement, je pense que l'entrepreneur, il y a forcément une part d'inconscience ou d'acceptation de prise de risque.
C'est intéressant ce que vous avez dit à l'instant. On y reviendra peut-être aussi un peu plus tard, mais ça veut dire qu'il y a un contexte en France qui permet une sorte de boîte à outils, qui permet à celui qui veut travailler de travailler comme il l'entend.
Ah ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Si on le décide, il y a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, quand vous partez d'une entreprise, si vous partez par exemple, soit vous êtes licencié malheureusement parce que la boîte doit se séparer de certaines personnes, vous êtes licencié, soit vous partez en rupture conventionnelle, vous avez le droit de transformer vos allocations chômage, non pas en une recherche d'emploi, mais une aide à la création d'entreprise. Ça, c'est quand même complètement dingue. Donc, ça permet, en tout cas, d'avoir un minimum de revenus pendant un certain temps, de tester une idée, l'écosystème, la BPI, le réseau entreprendre, les incubateurs. Il y en a partout, il y en a presque trop. Il y a plein de financements possibles. Il y a les plateformes de crowdfunding. Et puis, je pense qu'il y a, et sur votre chaîne d'ailleurs, il y a un intérêt général quand même pour l'entrepreneuriat en France. Donc, on est quand même depuis... moi, j'ai démarré en 2011. Il y a tout un écosystème très, très, très favorable qui s'est créé pour accompagner les lancements d'entreprises, et tant mieux.
C'est vrai qu'il y a un intérêt pour les chefs d'entreprise, particulièrement en ce moment. Les Français se tournent à nouveau vers la stabilité chef d'entreprise, le pragmatisme, l'optimisme, celui qui a les mains dans le cambouis. C'est intéressant parce que bon, le discours politique, parfois, est un peu dur avec les patrons.
Ouais, alors le discours politique, je sais pas trop. En tout cas, le pragmatisme du chef d'entreprise, c'est sûr qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, son métier, c'est de décider. Et décider, c'est difficile parfois. Tout décider, je sais pas. En tout cas, à la fin, d'être celui qui, à la fin, décide. Mm-hmm. Et quand je dis décider, c'est assumer les responsabilités. Et nous, on y reviendra, mais on a eu plein de réussites, on a eu des échecs, on a failli planter la boîte plusieurs fois. Bah, à la fin, quand vous sentez un peu l'air frais dans le dos, et que c'est à vous de décider, d'assumer, dans notre cas, par exemple, de diviser les prix par deux, de tout changer, changer le modèle, de fermer 17 boutiques, de séparer de certaines personnes. Enfin, c'est lourd, hein, ces décisions qui sont difficiles. Bah, je crois qu'aujourd'hui, les Français, dans le choix d'un futur président de la République, ils attendent quelqu'un qui est capable de décider. Et je crois qu'aujourd'hui, bah, dans le budget de l'État, on est tous conscients qu'en fait, il faut qu'on décide, et quitte à prendre des décisions difficiles. Et oui, aujourd'hui, un chef d'entreprise, normalement, il sait faire ça. Et c'est difficile, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça fait partie des responsabilités du chef d'entreprise.
Vous faites ça, effectivement, sur le slip français depuis 15 ans. On va parler des échecs dans un instant, parce que cette notion-là, elle est très importante. Et finalement, elle n'est pas si répandue que ça en France. Mais le slip français, au départ, c'est une aventure absolument fabuleuse, une montée en puissance, un magnifique produit. Vous avez choisi un positionnement premium, et puis une marque qui est devenue iconique, quoi.
Ouais, ouais. On est monté à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années. On a fait 2 levées de fonds, on a ouvert 20 boutiques, on a recruté plus de 600 000 clients, on a fait travailler 80 ateliers partout en France pour fabriquer plus d'1,5 million de produits. Donc on montre que c'est possible de fabriquer en France. On est entreprise à mission, au sens de la loi Pacte. Notre mission, c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française. Donc on incarne quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, le slip français est connu de 2/3 des Français. Voilà, quand on dit quelle marque de sous-vêtements connaissez-vous, il y a 2/3 des Français qui nous connaissent. Et aujourd'hui, on a 800 000 clients. Donc on n'a pas encore 2/3 des Français qui ont acheté chez nous. C'est un peu tout le propos pour la suite. Mais oui, on montre que même si on est une petite entreprise, on fait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas énorme, c'est beaucoup et pas beaucoup. On est la première entreprise 100% made in France dans le textile. On est très fiers de ça, mais on est une petite boîte. Mais je pense qu'on a une valeur symbolique forte parce que voilà, chaque matin, nos clients sont fiers d'enfiler leur slip. Et c'est un bon début. Et on incarne voilà, cette idée que moi je porte depuis le début, qu'on peut faire des choses dingues en France et que si on veut changer le monde, on peut commencer par changer de slip.
On peut le faire malgré les difficultés. Il y a eu la chute, il y a eu les chutes, c'est-à-dire plusieurs périodes comme ça où ça a été très compliqué. Vous, en tant que patron, comment vous traversez ça? Ce qui est intéressant, et on va y revenir, c'est que vous en avez parlé.
Oui, bien sûr. Bah, en tant que patron, on est des êtres humains, hein, donc c'est difficile quand il y a des doutes, quand il n'y a plus de trésorerie, quand on ne sait plus comment payer les équipes. On se dit, bah merde, je suis foutu, je vais plier la boîte. On a peur pour sa boîte, on a peur aussi pour les conséquences personnelles qu'on peut avoir. Il faut rappeler qu'un patron n'a pas, pour le coup, de droit au chômage, hein, faut quand même le dire, un patron en France. Donc au moins aujourd'hui, demain je plante la boîte, bah, il faut que je
recommence
de zéro. Voilà. Donc j'assume mon risque, hein, mais ça fait aussi partie des choses à avoir en tête. Donc on essaie de prendre les bonnes décisions, de garder la tête froide, d'écouter les autres sans trop écouter aussi, parce que je crois que quand on est entrepreneur, justement, on a ce truc-là un peu différent des autres, de voir des choses différentes. Et finalement, moi, ce que j'ai vécu, c'est quand la boîte grandit, bah, vous avez des investisseurs, vous avez des experts métiers, vous avez plein de gens qui ont pignon sur rue, qui peuvent avoir 10, 15 ans, 20 ans d'expérience et qui sont très forts, mais ils sont pas ceux qui ont créé la boîte du début. Et finalement, parfois, on a des intuitions qui sont plus justes parce qu'on a créé la boîte. Et l'enjeu, c'est de s'écouter, de se faire confiance.
C'est votre vision.
Ouais, c'est la vision de l'entrepreneur et c'est dur. Et de se dire, OK, on va y aller, on va diviser les prix par deux. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Léa Marie, qui est directrice générale avec moi maintenant. On en reparlera. Mais à un moment donné, on était les deux seuls à se dire, on va diviser les prix par deux. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Quand on a une entreprise qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on se dit, au lieu de vendre les slips 40 euros, on va les vendre 20. Tout le monde se dit, en fait, on va diviser le chiffre d'affaires par deux. C'est-à-dire qu'on va vendre le même nombre de produits et on va juste faire entrer deux fois moins de chiffre d'affaires. Et nous, on se disait, en fait, non, il faut qu'on passe d'une marque cadeau à 40 euros qu'on achète une fois à Noël pour faire plaisir à une marque d'équipement qu'on met tout le temps dans son tiroir. Les clients vont nous suivre, mais il faut qu'on fasse ce pari-là. Et en interne comme en externe, faut avoir des convictions et s'y tenir. Donc, Donc c'est difficile, mais je crois que ça fait partie des responsabilités du chef d'entreprise que d'avoir une vision et de s'y tenir.
Jamais vous avez eu envie d'abandonner ?
Si, plein de fois.
Ah oui ?
Plein de fois, ouais, non, plein, plein de fois.
C'est quoi ? C'est quand les banquiers appellent ?
Ouais,
c'est quand il faut sortir
des
gens ?
Quand les banquiers appellent, quand on doit renégocier la dette, quand mot compte double, quand vous renégociez la dette pour votre entreprise et que les banquiers vous appellent à titre personnel et que vous passez aux affaires spéciales à titre personnel, bah là, vous dites, wow, c'est chaud, quoi. Je suis pas magicien, j'invente pas l'argent, je fais de mon mieux, j'essaie de faire marcher ma tête, mais je suis pas magicien. Quand il y a rien qui marche, quand post-Covid, effectivement, on réduit l'équipe, on prend des décisions difficiles, on sépare de certaines personnes, humainement, c'est super dur. Et en plus, quand vous êtes dans une transformation d'équipe, que la mayonnaise n'a pas encore pris, vous sentez qu'on rame tous à contre-courant, les gens sont pas hyper épanouis d'être là, c'est des moments d'équipe qui sont super durs à vivre et on essaie de faire les choses du moins mal possible. Et puis, au bout d'un moment, voilà, la mayonnaise reprend, vous avez des nouvelles personnes qui arrivent, qui font balle neuve, quoi, qui arrivent avec une nouvelle énergie, qui vous disent ça c'est super, on fait ci, on fait ça, et puis voilà, progressivement, le travail finit par payer, parce que c'est une règle impondérable, le travail paye, et puis les planètes se réalignent, et puis on repart dans le bon sens, et là c'est le kiff.
Ce qui est intéressant dans vos stratégies, dans cette période de difficulté, comme je le disais tout à l'heure, c'est que vous en avez parlé. Ouais. Vous avez mis le doigt dessus. Ouais. En France, on ne fait pas beaucoup ça. Aux États-Unis, à la limite, plus on se plante, ouais. Plus les banques se disent finalement, il aime le risque, ça va le faire. Ouais. En France, on a du mal encore avec cette notion d'échec chez les patrons. Vous mettez le doigt dessus. Vous dites, ça y est, là, c'est compliqué en ce moment et on vous le dit.
Ouais, on a même dit, ça passe ou ça casse, quoi. On compte sur vous. Et c'est vrai que, et là, d'ailleurs, Léa était. Très en support et même à me pousser à dire en fait assumons ça, on est dans la merde, assumons-le, arrêtons de faire les bons élèves parfaits, de dire que tout va bien parce qu'en fait tout va pas bien et c'est la merde.
Ouais.
Et c'est vrai que ça a été assez libérateur parce que je m'y attendais pas, hein, mais c'est vrai que j'ai dit ça passe ou ça casse avec notre sens de la formule et en fait les gens se sont sentis d'un coup concernés et du coup on a vu en baissant le prix par deux, on a fait x5 en volume et on s'est fait dans le bon sens exploser de commandes. On a eu derrière, on a du tout réinventé la logistique, la production, créer une usine, tout ça. Mais c'est vrai que ça a été pas facile à faire parce que c'est pas commun. Et le slip français, c'est beaucoup ça. On a défriché beaucoup de choses, on a inventé beaucoup de choses. On a été les premiers à détourner les campagnes présidentielles en 2012. Et effectivement, en 2024, j'ai fait une vidéo un peu les yeux dans les yeux. Quoi. En fait, on est dans la merde. On a besoin de vous. Ça passe ou ça casse. Révolution, quoi. Achetez-nous des slips et ça a fonctionné au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer.
On est dans une émission leadership, ça veut dire que là, vous avez accepté de vous faire aider, d'en parler et de vous faire aider, de vous faire seconder par quelqu'un d'autre. C'est ça aussi, être leader, c'est savoir dire à un moment,
bien
là,
sûr.
Je ne peux pas tout faire tout seul.
Bien sûr, le leader, c'est pour moi quelqu'un qui est conscient de ce qui fait bien et ce qui ne fait pas bien, et qui est capable d'aller chercher de l'aide et des compétences sur ce qui ne fait pas bien, d'écouter les autres. Et à la fin, de trouver la voie centrale entre ce qu'il écoute et de fermer les œillères sur ce qui, au bout d'un moment, parce que on peut écouter tout le monde tout le temps. À la fin, faut décider, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Le leader, il doit écouter les gens autour de lui, décider et actionner. Et je pense que aujourd'hui, on est vraiment un binôme de direction avec Léa. Et ça, c'est hyper important. Déjà, on est un homme et une femme. Et je pense que c'est,
complémentaire.
Très complémentaire.
Oui.
Et elle incarne, une exigence, une exemplarité. Moi, je lui dis, hein, mais ça fait maintenant presque 20 ans que je bosse, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort professionnellement qu'elle. Et ça commence par être très fort humainement avec les gens, mais derrière, très exigeante. Elle tire vraiment le meilleur d'une équipe et elle sait faire travailler les gens ensemble. Donc, elle a vraiment, je dirais, un leadership plutôt paternaliste et autoritaire, hein, vraiment très ancré. Et moi, je vais amener quelque chose de peut-être plus en dehors de la boîte, plus créatif, plus inattendu, plus inspirant par certains côtés, mais l'ensemble des deux vous fait un cerveau gauche et un cerveau droit qui fait qu'on est déjà un binôme ultra fort.
On est plus fort.
Et derrière, je pense que l'équipe, ils se disent, c'est des malades. On ne sait pas où ils vont aller, mais on va les suivre. Et ils iront chercher l'un et l'autre des compétences. Certains seront plus... Et puis, il y a des moments aussi, hein, quand on est salarié dans une entreprise, il y a des moments où on a plus besoin de certaines choses parce qu'on a sa vie perso et à côté. Et puis, on passe des caps professionnels aussi.
C'est intéressant, la vie perso, parce que c'est vrai que patron, c'est patron 24 heures sur 24. Ouais, la semaine, les week-ends, on travaille tout le temps, on ne prend pas de vacances. Quand on est en vacances, on travaille quand même. On est en visio. Bref, ça ne s'arrête jamais.
Ça s'arrête jamais.
C'est quoi l'apport du perso, ou est-ce que c'est un frein pour certains? Qu'est-ce que ça amène dans cette vie de patron?
Ouais, je pense que pour être un bon chef d'entreprise, il faut une vie personnelle équilibrée. Et à chacun de trouver son équilibre. Des enfants, pas d'enfants, tout est possible. Mais en tout cas, il faut un équilibre fort pour avoir les ressources d'être sur le pont 24-24, d'être capable de répondre, de prendre des décisions claires. Et c'est essentiel. Donc à chacun, évidemment, c'est pas le rôle du chef d'entreprise de définir un cadre de ce que doit être une bonne vie perso, mais elle doit être équilibrée, solide pour permettre de se déployer, parce que forcément ça, ouais, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, et le chef d'entreprise, il a ce truc à part d'être câblé en permanence. Le soir, le week-end, effectivement, on y pense. On va voir un truc, on va aller au ciné, ça va nous faire penser à un truc.
Il y a une autre campagne, c'est l'entreprise, quoi.
Il y a un peu de ça. C'est
en permanence.
Mais c'est ce qu'on vient chercher aussi. Il y a une part d'adrénaline là-dedans, et donc de trouver la limite, qui est pas toujours évidente. Hein. Mais oui, je pense que dans tous les chefs d'entreprise, il y a une histoire personnelle qui fait qu'on s'accroche très fort à quelque chose.
On passe à la photo tout de suite.
BFM Entreprise, leadership, la méthode.
Guillaume Gibault, on vous a demandé de venir avec une photo de vous dans le cadre de votre entreprise. Vous nous avez envoyé celle-ci, notamment. On va la regarder tout de suite. Vous êtes l'image de votre marque, hein, très clairement, depuis le début. Ça me rappelle un peu ce qu'a fait Ralph Lauren avec sa marque. Mais alors, ça fait 40-50 ans qu'il fait ça. C'est-à-dire que c'est une vision, c'est un produit qu'on a lancé, c'est quelque chose qu'on a imaginé dès le départ, qu'on vit au jour le jour. Et voilà, qui peut mieux l'incarner que le créateur, Ralph Lauren l'a fait toute sa vie, lui, sa famille, il s'est mis en scène toute sa vie, c'était le meilleur modèle pour sa marque. C'est aussi ce que vous ressentez, vous ?
Ouais, alors c'est pas moi qui pose tout le temps en slip, bien évidemment, ça serait un peu décevant, mais en tout cas, dans les campagnes fortes, qui est celle-là, Révolution, donc je suis assis sur une chaise, on la voit pas forcément bien, mais j'ai dit à 400 000, j'enlève la chaise. et ouais, ça a marché. Moi, j'aime cette photo parce que c'est de l'audace, c'est du panache, c'est de l'impertinence. Mais en même temps, sur un sujet sérieux de fabrication en France, qui a du sens. Et moi, je me retrouve là-dedans. J'aime ce que ça dit de nous, de moi. C'est être sérieux sans se prendre au sérieux, ce truc-là.
Exactement.
C'est ça que j'aime bien.
Vous communiquez aussi beaucoup sur les réseaux dès le départ. Hein. Vous avez dit que vous aviez cette vision de, voilà, ça va exploser les réseaux, Internet, évidemment, depuis la création. C'est indissociable complètement du business, aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, quand on est une marque B2C, donc quand on vend à un client particulier, être fort sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. C'est un porte-voix. Aujourd'hui, on l'utilise vraiment pour prendre la parole sur des opérations. Les campagnes, la campagne pour les municipales arrive bientôt. On sortira une campagne qui s'appelle l'Union des partis. Et voilà, on va prendre notre rôle dans le débat de société,
oui.
Et notre rôle qui est d'être un marchand de slip fabriqué en France et apolitique, mais en tout cas d'être là pour amener de l'audace, de l'impertinence et du sourire aux Français qui en ont, je crois, cruellement besoin en ce moment. Et les réseaux sociaux, pour ça, c'est... Voilà, c'est un moyen d'expression, de parler à ses clients, à sa communauté.
Il n'y a pas trop de monde sur les réseaux sociaux malgré tout. Cette concurrence, elle n'est pas exacerbée
par ce
moyen-là.
Aujourd'hui, c'est fou. Il y a une avalanche de contenu tout le temps. Et nous tous, hein, chacun de nous, on est pris sur le scroll de ces réseaux sociaux et c'est complètement dingue. Maintenant, je pense que aujourd'hui, nous, c'est aussi un porte-voix qui permet parfois d'être récupéré par les médias plus traditionnels, entre guillemets. Et puis voilà, aussi on est une petite entreprise, on n'a pas beaucoup de moyens, donc les réseaux sociaux sont gratuits, ou en tout cas pas sous une forme payante financièrement. On est tous bien conscients d'être les produits de ces boîtes américaines, mais ça reste un porte-voix qui permet de passer notre message. Et au fond, je crois qu'une entreprise en 2026, elle doit avant tout passer un message plutôt que d'essayer à tout prix de vendre ses produits. Et nous, moi je suis fier de ça. Le slip français, c'est une entreprise à mission. Notre mission, c'est de montrer que c'est possible de fabriquer en France. Il se trouve qu'on vend des slips, mais à la fin, c'est pas vraiment le sujet.
Allez, la suite.
BFM Entreprise, leadership, la méthode.
On a parlé d'échecs tout à l'heure, Guillaume Gibault. À l'inverse, c'est quoi votre plus belle réussite ?
Ma plus belle réussite, c'est 15 ans plus tard d'être vraiment fier de mon entreprise. C'est, je dirais, la cohérence. Là, quand je me retourne, je me dis 15 ans sans lâcher le truc, en étant toujours là. Après avoir vécu, de prouver que c'est possible de fabriquer en France, puisqu'effectivement en 2025 on fait notre meilleure année, 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus d'1 million de résultats nets. On reste une petite boîte, un objet fragile, mais ouais, en fait on dit, en fait c'est possible de fabriquer en France, et ça j'en suis fier parce que dans le garage de ma grand-mère il y a 15 ans, j'y suis allé sacrément au panache avec un modèle de slip ramené dans le coffre d'une bagnole de location. L'eau a bien coulé sous les ponts et aujourd'hui ouais, le slip est un symbole de c'est petit, mais c'est possible et sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas que la taille qui compte.
Effectivement, votre entreprise, vous l'avez dit tout à l'heure, est classée B Corp. Il y a une vraie responsabilité dans cette démarche, dans cette entreprise. C'est un peu l'anti-fast fashion. C'est important, c'est pour aujourd'hui et pour la suite de votre parcours.
Ouais, bien sûr. Moi, je suis très attaché à l'idée de la réussite en France, de l'industrie française. Voilà, j'ai envie de montrer qu'impossible n'est pas français, qu'on a des boîtes magnifiques en France, que les Français sont très attachés à leur travail, même si c'est pas forcément le discours qu'on entend tout le temps. Il y a une étude INSEE qui a sorti récemment qui dit que 70% des Français sont engagés dans leur travail. Moi, quand je vais en usine, les gens, ils sont fiers de leur boulot, en fait. Bien sûr, on préfère tous être en vacances. Pas de débat. Mais, en fait, les gens sont attachés à leur travail. Souvent, dans les usines en France, il y a des histoires de famille. On va connaître son beau-frère, sa belle-sœur dans la même boîte. C'est des histoires régionales, dans des villages, en France. Et voilà, ça a du sens. On fabrique des produits de qualité. Et voilà, moi, j'aime ces histoires-là. Et je trouve qu'il y a une vraie vérité là-dedans. Et moi, j'ai envie de raconter ça. Parce que je pense qu'il y a un lien social fort. Il y a une vraie fierté, en fait, du travail bien fait.
Qu'est-ce qu'on dit à des jeunes qui se lancent? Vous me disiez tout à l'heure, ça fait 15 ans, cette boîte, avec un côté un peu « j'y crois pas ». Qu'est-ce qu'on dit à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? On les prévient des difficultés?
Non, surtout pas. On leur dit « allez-y, foncez, réfléchissez pas trop, n'écoutez que vous-même, tentez-la. Utilisez les outils que vous avez, les TikTok, l'intelligence artificielle, bien sûr. Voilà, prenez ces boosters pour réussir à aller plus vite que les autres. Faites-vous confiance et puis essayez. Au pire, vous ferez des souvenirs. Et je crois qu'il faut, voilà, il faut vraiment désacraliser l'échec. Et effectivement, en se trompant, on recommence et on réussit. Et ça vous rendra plus fort. Et puis voilà, je crois qu'on est tous ici pour réussir un parcours de vie. On n'est pas dans une case d'un métier. Faisons des choses qui nous tiennent à cœur. Essayons de chercher la voie intérieure qui vous emmène dans ce qui vous épanouit. C'est difficile.
Il faut quand même le dire.
Bien sûr, c'est super dur. Et puis, c'est pas fait pour tout le monde et c'est pas grave. Tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Moi, je le dis souvent et j'interviens souvent dans les écoles et tout ça. En fait, soit vous avez une voie intérieure qui vous pousse tellement fort qu'en fait, vous allez vous lancer. Et ça, vous êtes entrepreneur. Si ça va pas jusqu'à vous pousser, vous êtes pas fait pour ça et c'est pas grave. Parce que je pense qu'il y a rien de pire que de se forcer à le faire. Parce que là, si vous vous forcez à le faire, vous ne tiendrez pas la distance et ça va vous abîmer en route. Donc, faites-vous confiance. Si ça pousse assez fort, vous irez, vous le lancerez et vous ne poserez pas de questions.
Quand on a connu ce parcours et toutes les difficultés dont on a parlé, les hauts, les bas, est-ce qu'on peut revenir en arrière, revenir à la position plus confortable, moins risquée en tout cas, du salariat, ou c'est absolument pas possible?
L'avenir le dira, mais c'est vrai que je crois qu'on, quand on devient entrepreneur, on a une liberté qui je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Après, on verra de quoi demain est fait. Mais oui, je pense qu'on goûte à cet esprit d'initiative, cet esprit d'entreprendre, à cette responsabilité aussi dans les hauts comme dans les bas. On est responsable de ses succès comme on est responsable de ses échecs. Et finalement, c'est marrant parce que aujourd'hui, quand je raconte mon parcours, en fait, c'est surtout les échecs qui intéressent les jeunes et tous les créateurs d'entreprises, de dire en fait, on n'imaginait pas que le gars, il a morflé à ce point-là, mais il a rien lâché et il a réussi à s'en sortir. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis, en fait, ce que je veux, c'est que les gens qui écoutent le message aujourd'hui, de dire, en fait, si ce gars-là, il a réussi à construire un parcours professionnel qui l'épanouit et une certaine réussite professionnelle avec des slips, avec toutes les cagades qu'il a pris, voilà, je vais monter mon projet, mon truc, que ce soit entrepreneurial, artistique, associatif, ce qu'on veut. Mais en fait, voilà, qu'est-ce que vous avez au fond de vous? Et juste faites-le, en fait.
C'est important de parler de l'échec parce que peut-être qu'on nous met en permanence devant les figures avec les réseaux sociaux, les réussites, les vies extraordinaires, et que les jeunes te rendent compte que c'est fake.
Mais c'est fake. Et c'est pas parce que vous voyez des gens que vous suivez qui postent des stories toujours incroyables dans des lieux incroyables. Ils ont des galères comme vous, des doutes comme vous. Et voilà. Et à la fin, tout le monde est humain et essaie de faire de son mieux pour faire des choses qui lui tiennent à cœur.
Comment vous voyez vos 15 prochaines années?
15, là j'ai 40, donc j'aurai 55 ans.
Wow. Professionnellement.
Ouais. Professionnellement, j'ai envie de plus de liberté, de plus d'audace encore, d'être conscient de ma vraie force et de mon talent et d'essayer d'en faire le maximum, d'en tirer le maximum d'épanouissement. Mon talent, c'est vraiment la communication, le marketing. Mon talent, c'est de comprendre ce qui se passe dans une entreprise et de trouver les mots et les images pour le donner à voir et à comprendre au grand public. Et de réconcilier le travail et l'entreprise en France avec le grand public. Quand on a travaillé avec Duralex, je suis allé dans l'usine et pour moi, je me suis dit, en fait, il y a une évidence, c'est allons enfants de la cantine. Voilà, moi, ce que je sais faire, c'est ça, c'est trouver les mots qui sonnent juste. Et ça, j'adore ça. Et j'ai envie de mettre ça à disposition du Slip français, bien sûr, mais d'autres entreprises. Et j'ai envie d'accompagner les boîtes françaises à montrer qu'on en a dans le slip sans mauvais jeu de mots.
Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau du Leadership. Le Leadership, selon Guillaume Gibault, président fondateur du Slip français. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Si vous voulez connaître la méthode des leaders, l'émission est disponible en replay, en podcast et sur tous nos réseaux sociaux, bien sûr. C'est tous les lundis à 12h30 sur BFM Business. Passez une très bonne journée.
BFM Entreprise, leadership, la méthode, sur BFM Business.